Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Pour finir la saison en beauté et pour vous conseiller avant de partir en vacances, si vous avez cette chance, un livre qui, c'est garanti, vous fera frissonner même au soleil. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'un des écrivains préférés des Français, puisqu'il est dans le top 3 des auteurs les plus lus et les plus vendus et qui, depuis bientôt 20 ans, a publié plus de 20 romans qui, chaque année, chaque été, sont attendus avec impatience. Bonjour Franck Tilliez.
Bonjour.
Vous êtes célèbre en France, mais vous êtes aussi très connu à l'étranger, il faut le rappeler, puisque vos livres sont traduits dans de nombreuses langues, une trentaine, en Europe bien sûr, Italie, Espagne, Allemagne, Portugal, mais plus loin également, Taïwan, la Russie et en Corée du Sud. Est-ce que ça veut dire que le thriller, le roman qui fait très très peur, est un genre universel et qu'il traverse toutes les frontières, toutes les cultures ?
Oui, oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pas mal voyager avec les traductions de mes livres, et on se rend compte que culturellement, les pays sont évidemment très, très différents. Et, alors, par exemple, en France, on va vers les auteurs la plupart du temps qu'on connaît, hein, dans les salons. Et Taïwan, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que moi, quand je suis allé là-bas, je me suis dit, mais j'aurais personne, en fait. Et il y avait vraiment cet esprit de découverte, donc j'avais une queue absolument énorme avec quelqu'un qui tournait même les pages des livres que j'avais dédicacés pour que ça aille plus vite avec le stylo un peu à cette mode-là, et puis des gens qui me faisaient signer leur tablette numérique carrément sur les couvertures. Donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant, cet esprit d'ouverture des lecteurs, et c'est vrai qu'à travers les lecteurs on a aussi un regard sur le fonctionnement d'une société, en discutant avec eux, en voyant le rapport qu'ils peuvent avoir aussi aux livres, à la culture, avec cette fameuse curiosité. Parfois, certains pays, ils ont un peu plus peur des polars. Je pense par exemple au Portugal, qui, ce genre-là, marche un peu moins parce qu'il y a encore cette grande frontière entre la littérature blanche et la littérature noire. Donc, il y avait un vrai travail de l'éditeur pour justement montrer que ce genre-là, le genre du thriller, du polar, était un vrai genre à part entière et qui pouvait intéresser les gens. Donc, c'était vraiment très enrichissant pour moi, l'auteur, de voir de quelle manière une même histoire peut être reçu suivant les différentes cultures.
Et oui, la mort est universelle. Il faut dire aussi que vous avez le don, Franck Tilliez, de piéger vos lectrices et vos lecteurs comme des mouches dans une toile d'araignée géante, puisque nombre de vos romans, pas tous néanmoins, je le précise, tissent des fils invisibles pour les néophytes, mais visibles pour les plus assidus, entre les histoires. Alors bien sûr, il y a la série qui met en scène vos deux personnages policiers, Franck Charcot et Lucie Hennebelle, ensemble ou séparément d'ailleurs. D'autres qui sont des unitaires, comme on dit. Et puis, il y a ce nouveau que vous publiez actuellement, qui s'intitule Labyrinthe, avec un S, je précise, toujours chez votre éditeur Fleuve Noir, qui, s'il peut se lire indépendamment, s'inscrit néanmoins à la suite de deux livres précédents, Le manuscrit inachevé et Il était deux fois. Et le point commun entre ces trois volumes, on va dire, est un écrivain diabolique qui ne ressemble pas du tout à l'écrivain que vous êtes.
J'espère.
Comme on le découvre dans ce merveilleux essai que vous signez également dans la collection Secrets d'écriture et qui s'intitule Le plaisir de la peur, dont nous allons parler plus longuement en deuxième partie. Mais pour commencer, Labyrinthe, donc, un récit qui met en scène trois femmes, essentiellement, même s'il y en a deux autres qui ont leur importance, mais ce sont quand même les voix de trois narratrices qui forment la matrice du roman, Lizine, journaliste, Vera, psychiatre, et Julie, une adolescente. Je me demandais, Franck Tilliez, si ce n'était pas votre texte le plus féminin. Je ne dis pas féministe, hein, mais celui où vraiment tous les rôles principaux, si on met de côté le romancier fou, mais on le voit assez peu finalement, sont incarnés par des personnages de femmes. Est-ce que c'est le cas aussi selon vous ?
Oui, oui, complètement. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup créer des personnages féminins. Je l'ai fait quasiment dès le début, avec Lucie Hennebelle, mon personnage récurrent. Alors, au départ parce que je voulais aller à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de trouver dans le roman policier, c'est-à-dire le vieil enquêteur un peu alcoolique qui en veut à la planète entière. Et je me suis dit, ben voilà, moi je vais créer un personnage qui va aller un peu à l'opposé de tout ça. Donc j'ai créé Lucienne Bell à l'époque. Et je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de plaisir à créer des personnages féminins parce que, alors d'une part, j'aime beaucoup les mettre en difficulté. À la base, dans ces métiers-là, principalement le métier de policier, elles ont une difficulté supplémentaire, je trouve, par rapport aux hommes, parce qu'elles évoluent dans des métiers très masculins, où elles sont déjà obligées de s'affirmer et de surmonter des obstacles que ne surmonteraient pas les hommes. Donc ça m'a intéressé. Et puis aussi montrer finalement que les femmes, elles sont évidemment très lumineuses, mais aussi dans les parties les plus sombres, on peut aussi les retrouver. Elles ont aussi leur secret, leur démon, au même titre que les hommes, évidemment. Et c'est vrai qu'avec Labyrinthe, je me suis dit, ben tiens, je vais essayer de créer un roman qui est, oui, presque 100% féminin, même s'il y a évidemment quelques personnages secondaires qui, ou principaux qui sont quand même des hommes. Mais le vrai défi, c'était justement de créer des femmes très différentes les unes des autres. Et ça, en très peu de pages, parce que c'est important. Quand on entre dans un thriller, un polar, on a l'habitude quand même qu'un personnage nous accueille, de suivre ce personnage, d'avoir un seul personnage dont on va suivre les aventures. Et là, il y en avait trois, voire plus. Donc, il fallait que très, très rapidement, le lecteur puisse, quelque part, s'identifier à chacune de ces femmes. Donc, des univers très tranchés, des caractères très différents. C'était vraiment le défi, c'est ce qui m'a intéressé. Donc, on a évidemment des personnages qui, très vite, sont caractéristiques des personnages de thriller, c'est-à-dire, ces femmes ont une vie à peu près normale. Et ça bascule en quelques pages.
Alors justement, on va les présenter brièvement, ces trois femmes. Peut-être à commencer par Julie, qui connaît un des sorts les plus terribles qu'on puisse imaginer. À 17 ans, elle est kidnappée et elle va être séquestrée des semaines, des mois, des années par un fou. Alors il s'avère que c'est quelqu'un qu'elle a connu et qui lui fait subir non pas des violences sexuelles, mais des violences psychologiques innommables. Et il se trouve donc que Julie, la fille d'un policier que nous avions rencontré lors d'une enquête, c'était un gendarme, et on n'avait pas eu la résolution justement de la disparition de sa fille. Est-ce que c'est pour cela, Franck Tilliez, finalement, que vous reprenez cette histoire, à la fois pour vos lecteurs et peut-être pour vous aussi ?
Oui, oui. Alors effectivement, Labyrinthe, où on retrouve ce personnage de Julie kidnappée, entre dans le cadre de ce que j'appelle un triptyque, c'est-à-dire un ensemble de trois romans qui peuvent presque se lire dans le désordre et indépendamment les uns des autres, mais qui quand même ont un lien très fort. Et Julie, donc le personnage kidnappé, fait partie de ces liens-là, puisque dans « Il était deux fois », son père la recherche pendant 12 ans. Mais on ne la voit jamais dans « Il était deux fois ». Elle est un peu l'arlésienne, comme on dit au cinéma. C'est le personnage qu'on recherche, mais qu'on ne trouve pas. On suit plutôt l'enquête de son père 12 ans après, qui va essayer de la retrouver. Et puis, dans le manuscrit inachevé, parce qu'il y a encore un lien avec un troisième livre, on n'en parle pas du tout de Julie, mais on parle du fameux écrivain qu'on retrouve là. Donc, j'aime beaucoup tisser des liens dans un univers pour vraiment récompenser et satisfaire les lecteurs qui me suivent depuis le début. Au fur et à mesure de la lecture, on va se rendre compte qu'il y a des liens et il y a quelque chose qui va se dégager, un plaisir supplémentaire de suspense, de frisson, de peur dans la tête du lecteur. Et c'est ce que je recherche, vraiment de créer cet univers à la fois dans un roman, mais aussi dans quelque chose de beaucoup plus large qu'on retrouve d'une année sur l'autre.
Mais vous aussi, peut-être, Franck Tilliez, vous vous inquiétez, vous vous demandiez où était Julie et il fallait lui consacrer un roman.
Oui, oui, mais complètement. Ces trois romans, c'est un peu comme une pyramide, en fait. Vous avez, si on compte pas le socle, vous avez les trois faces et chaque livre, en fait, va éclairer une des faces de la pyramide.
Ensuite, alors parallèlement et en alternance, parce que je le précise à nouveau, elles ne se connaissent pas, même si leur histoire se rejoint à la fin. Nous faisons la connaissance de Lizine, journaliste, qui, elle, a déjà une vie très agitée puisque son identité est ou a été usurpée. Elle enquête sur une secte qui tue des femmes et qui les filme tout en les torturant. Donc là non plus, c'est pas très gai. C'est ce qu'on appelle de façon générale les snuff movies. Est-ce que pour vous, c'est le comble de l'horreur, la pire facette de l'humanité que vous montrez ici, Franck Tilliez ?
Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu d'aller vraiment fouiller dans les faces les plus sombres de la société, qui intéresse toujours les lecteurs. Le lecteur lit ce genre du thriller, du polar, pour aller quelque part mettre son œil dans le trou de la serrure et voir ce qui se passe derrière. Il y a un peu un aspect transgressif quand on lit ce genre de roman. Hein. On le lit pour le plaisir, mais on les lit aussi pour aller vers des endroits où on n'irait pas soi-même dans la vraie vie. Donc il y a cette fascination d'aller regarder ce qui se passe derrière. Et justement, je parle de fascination, mais cet univers un peu des snuff movies, des limites extrêmes de l'art, c'est-à-dire jusqu'où les artistes sont capables d'aller au nom de l'art, entre guillemets jusqu'au meurtre. Est-ce que ça pourrait être considéré comme une œuvre d'art ultime pour certains artistes? Ça, c'est un domaine fascinant qui intéresse beaucoup les lecteurs, avec un aspect un peu légende, c'est-à-dire finalement ces histoires de meurtres filmés à connotation un peu sexuelle dont on parle depuis des années et des années. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est juste une légende urbaine? Est-ce qu'il y a des gens dans notre monde qui sont capables de faire d'accomplir des actes pareils? Donc moi, voilà, c'est des sujets que j'aime creuser. C'est vrai que ce personnage de Lizine, un jour, reçoit ce film 8 mm chez elle. Elle ne sait pas pourquoi elle reçoit ce film. Elle le visionne et elle a cette vision de meurtre et elle se demande, mais est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est juste un montage et pourquoi on me fait subir ça?
Enfin, Vera, psychiatre, qui vit recluse dans la montagne parce qu'elle est hyper électrosensible, état que l'on dit aussi de HES, c'est-à-dire qu'elle est intolérante aux ondes téléphoniques, électriques et autres. Elle doit vivre vraiment dans ce qu'on appelle les zones blanches. Alors ça aussi, c'est un phénomène réel, relativement récent. Donc ça veut dire que vous aimez bien aussi, Franck Tilliez, vous appuyer sur une réalité scientifique pour bâtir vos intrigues, ou c'est justement parce que ça vous aidait à nourrir votre personnage et à justifier le fait qu'elle était toute seule et loin du monde que vous utilisez ce fait-là?
Oui, vraiment les deux dans ce cas-là, parce que l'hyper-électrosensibilité, j'ai découvert ça il y a 4 ou 5 ans en faisant des recherches pour d'autres livres, et je découvre ce sujet de gens qui ne supportent plus les ondes et qui sont vraiment obligés d'aller vivre un peu comme des Robinson Crusoe avec leur tente dans des endroits où il y a zéro onde. Il se trouve qu'à l'époque, je ne pouvais pas utiliser ce sujet parce que ce n'était pas d'actualité. Mais c'est des sujets que je trouve tellement fascinants que je les mets un peu dans mon carnet et je me dis un jour, je pourrais les ressortir. Et là, pour Labyrinthe, j'avais besoin à un moment donné que l'un des personnages que je crée, donc qui est Vera, la psychiatre, elle ait une vie complètement normale dans une ville, elle est psychiatre dans un hôpital, et qu'elle se retrouve du jour au lendemain au fin fond d'une forêt des Vosges parce que je trouvais l'environnement propice au thriller. J'avais besoin que ce personnage soit seul au monde, dans un environnement très froid, très, très hostile. Donc c'est vrai que la recherche documentaire m'a servi de prétexte pour crédibiliser justement ce personnage encore plus. Donc quelque part, j'ai utilisé une cartouche, j'ai un peu, on va dire entre guillemets, gâché ce sujet pour justifier ça. Mais moi, j'hésite pas, c'est-à-dire que quand j'ai des idées qui pourraient presque être des romans à elles toutes seules, si j'en ai besoin à un moment donné dans un livre, pour que le livre soit encore meilleur, ben je vais utiliser l'idée parmi d'autres. Et je me dis, tant pis, je trouverai d'autres idées pour d'autres romans.
Donc voilà, planter le décor et puis surtout le profil de ces trois femmes qui vont être réunies par un thème qui vous tient à cœur souvent, Franck Tilliez, c'est la question de la mémoire. Oui. Les souvenirs, ce qu'on croit avoir comme souvenirs, les souvenirs qu'on s'invente. Et n'en disons pas plus, parce qu'encore une fois, ce serait dommage de trop dévoiler. Mais trois femmes qui sont d'une certaine façon emmurées dans le silence. Et ça peut nous faire penser à une chanson que vous aimez bien d'ailleurs, de Simon & Garfunkel, « The Sound of Silence ».
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing
singing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Franck Tilliez, qui publie un nouveau roman sous le titre « Labyrinthe » aux éditions Fleuve Noir, ainsi qu'un texte très personnel sur ses secrets d'écriture intitulé « Le plaisir de la peur », coédité par Le Robert et Fleuve. Un livre précieux qui donne beaucoup de clés sur votre métier. Et justement, avant d'y arriver, il y a quelques indices dans Labyrinthe, cette fiction, on l'a dit en première partie, qui met en scène trois femmes, parce que dans leur entourage, justement, il y a deux personnages qui sont tous les deux des écrivains. Sophie, une romancière, qui dit que ses livres et les faits divers dont elle s'inspire, qu'elle écrit dans ses fictions, se réalisent des semaines ou des mois plus tard avec beaucoup de détails similaires et très troublants. Vous croyez à la littérature prémonitoire, Franck Tilliez ?
Oui et non. C'est-à-dire que, en fait, je suis très scientifique à la base, donc j'aime beaucoup vérifier les informations. Et de manière générale, dans mes romans, je parle de sujets qui sont vérifiés, voilà, dont on peut avoir les preuves, soit par la voix des scientifiques, soit par papier. Mais j'aime bien quand même jouer justement avec les frontières de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on n'a pas encore découvert. Les prémonitions, les limites de la mémoire cellulaire par exemple, c'est-à-dire le fait de porter un organe, un cœur de quelqu'un d'autre, et d'avoir des souvenirs qui ne sont pas les nôtres. Tout ça me fascine. La vie après la mort, les expériences de mort imminente, tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Et c'est vrai que je joue souvent avec ces frontières. Et là, j'ai trouvé cette idée-là, c'est-à-dire que je trouvais assez fascinant d'avoir un écrivain comme ça qui vient preuve à l'appui en disant bah voilà, j'ai écrit des romans qui parlent de telle ou telle situation, et ces situations se sont produites 6 mois ou 8 mois plus tard. Regardez, vous avez la preuve dans les journaux. Et on peut se dire, bah, finalement, est-ce que ce sont juste des coïncidences, ou est-ce qu'elle a un don prémonitoire, ou est-ce qu'elle a épluché des milliers et des milliers de faits divers jusqu'à trouver finalement le fait divers qui se rapporte au livre. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on est lecteur, parce que je sais que ce sont des sujets qui sont fascinants. Pour nous, on aime bien encore. Je dirais heureusement que la science n'explique pas tout aujourd'hui. Ça laisse une place pour nous, les romanciers, à l'imaginaire et à inventer des mondes qui ne sont pas encore définis et concrétisés.
En fait. Et en même temps, quand en 2015, vous publiez Pandemia, qui imagine qu'une épidémie donc de grippe inconnue se propage en France puis dans le monde, vous avez dû être un peu troublé, Franck Tilliez, quand le coronavirus a paralysé le monde fin 2019.
Oui, ça a été quelque chose de très troublant, très marquant. C'est vrai que j'ai écrit une histoire d'une grippe en 2014 qui, à partir d'un oiseau trouvé mort dans le nord de la France, se propage à un être humain et puis à un autre. Et puis après, ça devient une pandémie avec évidemment des étapes comme on a pu le voir pendant le confinement, le cas zéro, cas contact, les dits contaminés, les établissements qu'on commence à fermer. On trouve exactement ça, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec le coronavirus, on le trouve dans Pandemia. Alors, il y a un aspect évidemment qui peut paraître très prémonitoire, mais c'est parce qu'en fait, il y a quand même un fond scientifique. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des pandémies dans le monde, et on sait que dans chaque siècle, depuis l'aube des temps, il y a deux ou trois grandes pandémies qui balayent un peu l'humanité comme ça. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça n'arrive plus. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si dans notre monde d'aujourd'hui, une pandémie venait à arriver? Donc, j'ai interrogé des scientifiques qui ont déjà des documents, qui réfléchissent déjà à ça depuis très longtemps, qui essayent d'anticiper, qui m'ont fourni de la documentation en me disant, ben voilà, s'il y avait une pandémie de grippe, parce que moi, j'ai choisi la grippe, il se passerait ceci, cela. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, évidemment, c'est qu'il y ait ce nouveau virus, le Covid, hein, avec cette vitesse de propagation, avec ces mutations, etc. Il n'y avait pas de plan pour ça. Donc, c'est pour ça qu'à partir d'un moment donné, la réalité du Covid a un peu divergé de Pandemia, mais les bases des deux sont exactement les mêmes. Et donc, j'étais finalement assez... J'aurais préféré que ça reste de la fiction, évidemment, mais j'étais assez fier et heureux de voir que j'avais fait le travail sérieusement, c'est-à-dire que ce roman, l'histoire que je racontais dans ce roman, qui paraissait de la pure science-fiction en 2014, bah, finalement, elle était très, très proche de la réalité. J'ai fait mon travail d'auteur de romans policiers qui essaye de décrire le monde dans lequel il vit.
Alors la violence, elle est aussi au cœur de la vie et de l'œuvre de votre deuxième personnage écrivain, le plus important évidemment, Caleb Traxman, qui lui est diabolique dans tous les sens du terme, pas seulement quand il écrit mais aussi au quotidien. Et voilà d'ailleurs une des descriptions qu'en fait Julie. Pour avoir un aperçu de sa noirceur, il suffisait de lire ses livres, si crus et si sombres qu'on se demandait quel genre d'individu était capable d'imaginer des histoires pareilles. Un pervers, un malade, voilà ce qu'il était. Est-ce qu'il faut en effet être malade et pervers pour écrire des histoires aussi noires que les vôtres, Franck Liez?
Alors non, je vous rassure, et lui est passé à l'acte, pas moi. Non, c'est vrai qu'il y a, ce qui est intéressant aussi dans Labyrinthe et dans quelques-uns de mes livres, c'est que je m'interroge sur mon propre métier, c'est-à-dire de me dire pourquoi moi-même je m'interroge sur des sujets très très sombres vers lesquels n'iraient pas les gens spontanément. Je passe quand même la majeure partie de mon temps, mes journées, à aller fouiller dans les bas-fonds de la société, dans les histoires les plus noires. Hein. Je consomme évidemment des faits divers, je vais aller creuser, voir ce qui... Dès que je vais parler de grève d'organes, évidemment, je vais aller vers les trafics d'organes. Enfin, c'est ces sujets-là qui m'intéresse, et je me dis, mais pourquoi? Alors, évidemment, je me dis à un moment donné, dans mon travail, je me dis, mais en fait, je suis un peu comme un journaliste, c'est-à-dire que j'estime que c'est un peu mon travail de retranscrire ce que moi-même je découvre, en gardant une distance, évidemment, avec le sujet que je traite. Quelque part, ça me rassure, je me dis, ben voilà, je fais une espèce de travail où je retranscris une vérité. Et puis, évidemment, il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais face à ces images terribles de meurtres qui sont sur mon écran? Et pourquoi je parle de ça? Et qu'est-ce qui m'a mené là au départ? Alors, je n'ai pas la réponse, parce que quelque part, je préfère la laisser un peu dans une zone obscure de mon esprit, parce que pour l'instant, je trouve mes idées, ça fonctionne. Et peut-être que si un jour, j'essaie d'avoir ces réponses-là, auprès d'un, je sais pas, d'un psychologue ou d'un psychanalyste, peut-être que ça casserait justement cette magie et puis cette matière qui sort d'une zone un peu sombre de mon esprit. Donc, pour l'instant, je laisse un peu en suspens, mais c'est vrai que ça m'interroge. Et c'est pour ça que je mets en scène des personnages d'écrivains. Ça me permet aussi d'extraire justement ces interrogations à travers des héros de papier.
Laissons cette zone, en effet, dans l'ombre et confirmons qu'en effet, Traxman est sans doute votre antithèse, Franck Liez. En tout cas, si on en croit ce que vous dites dans Le plaisir de la peur, puisqu'a priori, contrairement à votre personnage dont on a dit qu'il était sadique et extraverti, vous êtes plutôt doux, timide. Et vous n'aviez d'ailleurs pas forcément la vocation de devenir romancier, enfant ni adolescent. Cela dit, vous lisiez beaucoup, vous aviez découvert Stephen King, entre autres. Mais alors, rappelez-nous ce qui se passe. Comment se fait-il qu'en octobre 2000, à l'âge de 27 ans, c'est ce que vous décrivez précisément hein, dans le livre, vous êtes donc ingénieur à cette époque, vous travaillez dans le nord de la France, vous avez un déclic, vous ouvrez votre ordinateur et vous commencez une histoire.
Oui, c'est une manière assez incroyable de tomber, on va dire, dans le milieu de l'écrivain. Il y a des écrivains aujourd'hui qui font ça depuis tout petit, qui ont envie de raconter des histoires et qui écrivent et qui écrivaient des nouvelles, des poèmes. Moi, jamais. C'est vraiment... Ça m'est tombé dessus. Alors, je pense avoir justement une explication sur ça. C'est-à-dire que j'ai été grand consommateur, effectivement, d'histoires très sombres, d'horreurs, d'histoires à suspense, à la fois par la littérature et beaucoup par le cinéma, avec une accumulation d'images très fortes et très violentes. Et vous savez, quand on est adolescent, quand on a 14-15 ans, on est très sensible à ça. Et en même temps, on a envie de s'y confronter, parce que c'est ce qui nous constitue. C'est un peu par défi. Les défis un peu stupides d'adolescents, de se dire, mais moi, on veut se confronter à la peur et dire, je suis capable de la surmonter. Et donc, j'ai vraiment eu des périodes où je me suis fait très, très peur, c'est-à-dire à la limite d'avoir peur d'aller m'endormir dans le noir. Et je pense que tout ça a mûri au fond de moi. C'était des images qui se sont accumulées et qui ont eu un besoin, à un moment donné, de ressortir. Sinon, peut-être que je serais devenu fou, j'aurais eu une maladie mentale, j'en sais rien, mais... Je pense que l'écriture, la connexion entre mon cerveau et une plume et un stylo, c'était un moyen d'évacuer ces histoires-là à travers une première histoire qui était quand même... le roman s'appelait Conscience animale et qui était quand même une espèce de mélange assez terrible de toutes ces images que j'avais pu accumuler, très sanglantes, très cinématographiques. Aujourd'hui, c'est très différent ce que j'écris, mais c'est vrai que les premiers romans, je pense que je suis allé les chercher au fond de moi pour, quelque part, me débarrasser, en fait, de ces démons qui, quelque part, m'habitaient.
De vous libérer de ce qui était emprisonné au fond de vous, c'est ce que vous écrivez, Franck Liez. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'à partir de là, vous écrivez tout le temps. Alors, même dans la voiture, j'adore cette scène. Quand vous allez travailler avec des collègues, vous êtes derrière, vous avez l'ordinateur sur les genoux et vous tapez sans relâche. Tout votre temps libre est consacré, même si d'ailleurs ça empiète un peu sur votre vie de famille. Mais là, vous êtes dans une sorte de tunnel.
Oui, oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est une époque assez folle où j'étais vraiment habité par les démons de l'écriture.
Mais c'est dire que donc pour vous, l'écriture, Franck Tillias, c'est une passion, c'est vraiment une vie, une addiction, vous diriez peut-être ?
Oui, oui. Je crois que ce qui est le moteur de tous les jours, c'est la passion d'inventer des histoires et de se dire qu'il y a des gens qui vont lire cette histoire, qui vont ressentir des émotions. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il y a un travail énorme. C'est vraiment 8 heures par jour, surtout dans ce genre littéraire-là, qui est le polar, l'enquête policière fouillée. Où il y a une vraie mécanique, où il faut se documenter, il faut aller voir des gens.
Alors justement, je voudrais vous citer, parce que je trouve que c'est très beau, la métaphore que vous faites, c'est en quatrième de couverture de justement Le plaisir de la peur. Écrire un livre, ce n'est pas assembler les centaines de milliers de pièces d'un Boeing 737 en suivant un protocole très précis. C'est imaginer les pièces à partir de rien, les construire de ses petites mains, les assembler sans plan et prier pour que l'avion vole. Possible qu'il décolle, pas sûr qu'il atterrisse sans avoir perdu la moitié d'un réacteur. Donc écrire un livre, c'est construire un avion. Et tous les ans, c'est ce que vous faites.
Oui, oui, mais c'est ça, c'est ce qui est le plus fou. C'est-à-dire, pendant une année, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés dans l'écriture. Et j'en parle dans le livre. Il y a des obstacles à surmonter. Il y a cette construction d'avion. C'est aussi comme gravir une montagne, un Everest. Et on sait que ça va être très, très compliqué. Et on arrive au bout et pourtant de dire, bah, ça y est, je suis arrivé au bout. Mais je redescends la montagne et ça y est, je recommence. Ou je réinvente un autre avion aussi compliqué que le premier. Il y a un aspect un peu de complètement fou là-dedans, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher. À peine après avoir terminé un livre, je me dis, bon, je vais dire à mon cerveau de ne rien faire. Mais on ne peut pas dire à son cerveau de ne rien faire. Parce que même quand on se couche, même quand on est en train de s'endormir, le cerveau, lui, tourne en permanence. Et il me dit avec sa petite voix... Mais attention, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut inventer une nouvelle histoire parce que tes lecteurs t'attendent. Donc, c'est à la fois quelque chose de très plaisant, mais c'est un peu, quelque part, il y a un peu une malédiction de se dire, mais je ne peux pas réchapper à l'écriture parce que ça m'habite, parce que je pense que je suis fait aussi pour inventer des histoires et que ça me plaît. Mais dans ce plaisir, il y a évidemment cette notion de travail, d'obstacles à surmonter, de page blanche. Tous les ans, on rencontre la page blanche de surprendre et surtout de satisfaire les lecteurs. Moi, ça reste aussi la vraie motivation dans l'écriture. Et ce qui me fait peur aussi à chaque sortie de livre, c'est de me dire, est-ce que le 21e, le 22e, le 23e roman continuera à plaire autant aux gens qui m'accordent leur confiance depuis le début.
En tout cas, j'entends que vous avez toujours la même sincérité à proposer le meilleur à vos lecteurs dans une forme de dialogue et de respect. Et j'entends aussi un peu comme le mythe de Sisyphe, celui qui ne cesse de remonter l'immense pierre en haut de la montagne qui redescend. Et je ne dis pas ça par hasard, parce qu'ici, dans Labyrinthe, c'est le mythe du labyrinthe, mais bien sûr au sens grec, avec le Minotaure, le monstre, et puis Ariane, un des personnages, le fil d'Ariane qui peut-être sauvera vos héroïnes. Merci beaucoup, Franck Tillias.
Merci, c'est un
plaisir. De nous avoir fait partager à la fois quelques éléments de Labyrinthe, pour allécher l'envie d'aller jusqu'au bout de ce labyrinthe et puis d'avoir partagé aussi vos secrets d'écriture avec autant de générosité dans ce volume qui s'intitule Le plaisir de la peur, coédité par Le Robert et Fleuve Noir, et Labyrinthe bien sûr aux éditions du Fleuve Noir comme les autres.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.